إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الناظم رحمه الله تعالى في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: فجاء طيبة الرضا يقينا، إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين، ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضري، من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب، من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر صوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر. وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في 3 المشتهرة، في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم بنة الكريم، زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصه وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. طيب، فقال هنا الناظم رحمه الله تعالى: وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. طيب، فإذن ذكرنا هذه الحوادث، أي حوادث السنة الثالثة، وقلنا إن الحادثة الأولى هي غزوة غطفان، الثانية زواج عثمان بأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة زواجه من حفصة، والرابعة زواجه من زينب رضي الله عنها. طيب، donc on a déjà évoqué quelques événements de la troisième année de l'Hégire. Et on a dit donc qu'il y avait durant cette année-là 8 événements. Donc on va finir aujourd'hui, terminer l'évocation de ces 8 événements. On en a déjà évoqué 4, Taïeb, les fois dernières. Donc la première, ou le premier événement que l'on a évoqué, Ghazwatu Ghatafan, l'expédition de Ghatafan. Puis le deuxième, le mariage de Uthman avec Umm Kulthum, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis le troisième, le mariage du prophète, alayhi salatu wassalam, avec Hafsa. Le quatrième événement, enfin, que l'on a évoqué, le mariage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec la mère des croyants, Zaynab radiyallahu anha. طيب نعم. إذن قوله رحمه الله: ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، أي من السنة الثالثة من الهجرة، وهي الوقعة العظيمة التي امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز بها بين المؤمنين والمنافقين الذين ظهروا بعد معركة بدر. طيب، فجاءت معركة أحد لتميز الصف، واستشهد فيها من المسلمين نحو 70، منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم. وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت رباعيته اليمنى سفلى بحجر، وهشمت البيضاء على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. Donc on va mentionner ici le cinquième événement de la troisième année de l'Hégire, qui est la bataille de Uhud. D'accord? Donc il dit ici: ثم غزا إلى أحد في شهر شوال. Ensuite, يعني le prophète عليه الصلاة والسلام est parti donc à l'expédition de à Uhud durant le mois de Shawwal. De la troisième année de l'Hégire, bien sûr. Donc c'est bien sûr la grande bataille, hein, qui s'est produite, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs croyants et les a testés. Et a distingué à travers cette bataille-là entre les croyants et entre les hypocrites qui se sont manifestés après la bataille de Badr. Et donc la bataille de Uhud, elle est venue pour justement distinguer, hein, le rang, yani, des musulmans. Et il faut savoir donc que parmi les musulmans sont morts, yani, environ 70 000, astaghfirullah, environ 70 yani, parmi les musulmans durant la bataille de Uhud. Et parmi ces 70, il y eut donc le maître des martyrs, Sayyid al-Shuhada, Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Et également durant la bataille, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été blessé. Il a été blessé au niveau du visage, ainsi que ses ruba'iyats. Donc ruba'iyats, Ce sont les incisives. Taïeb, Rubaiyat, ce sont les dents qui se trouvent entre les incisives centrales et les canines. D'accord? Donc on en a quatre en tout. Hein, dans notre dentition, nous avons quatre Rubaiyat. En français, ils les appellent les incisives latérales. Donc on a les incisives centrales. Et juste à côté, on a les incisives latérales. Puis on a les canines. D'accord? Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, lors de la bataille de Uhud, on lui a cassé donc son incisive droite de la mâchoire du bas. D'accord? Donc l'incisive en bas à droite, yani, elle a été cassée par une pierre.
L'incisive latérale droite.
C'est ça. L'incisive latérale basse droite, voyez, ou inférieure si tu veux. Non. Et son casque aussi, le casque qu'il portait donc durant cette bataille-là, a été brisé également. Voyez, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et parmi les versets qui ont été descendus justement au sujet de la bataille de, ou du jour de Uhud, on a 60 versets de la sourate Ali Imran, Tayyib, dans lequel Allah tabarak wa ta'ala commence en disant donc dans le verset 121 de cette sourate, lorsque tu partis en quittant ta famille pour assigner aux croyants des postes de combat. Et Allah est audient et omniscient. Taïeb, ici Allah tabaraka wa ta'ala évoque ce jour-là, le jour de Uhud. Fa min hikmatillah tabaraka wa ta'ala wa sunnatihi fi rusulihi wa atba'ihim an yudalu marra wa yudala alayhim ukhra. لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن جمع لهم بين الأمرين يتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة وهذا ما جرى في أحد وكانت العاقبة للمؤمنين. Donc fait partie de la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala à l'égard de ses messagers et de ceux qui suivent les messagers, eh bien le fait qu'Allah jalla wa ala une fois va leur donner la victoire. Et d'autres fois, Allah, au contraire, donnera la victoire à leurs ennemis et à leurs opposants. Voyez? Mais bien sûr, la fin heureuse, elle n'appartient qu'aux croyants. D'accord? Pourquoi? Parce que si Allah, Jalla wa Ala, dit le Cheikh Abdel Razak al-Badr, Fidallah Ta'ala, si Allah donnait constamment la victoire aux croyants, eh bien, tout le monde irait avec les croyants. C'est-à-dire que on ne pourrait pas distinguer au sein des musulmans celui qui est véridique de celui qui est hypocrite et de celui qui ment. D'accord? Par contre, si Allah Jalla wa Ala ne donnait jamais la victoire aux croyants, également l'objectif ne pourrait pas être atteint, qui est l'objectif de la prophétie ou l'objectif qui est de transmettre le message aux enfants de Adam alayhi salam. Donc la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala ici, elle implique le fait qu'il réunit Allah jalla wa ala, qu'il réunisse ces deux choses, c'est-à-dire que de temps en temps, des fois les croyants obtiendront la victoire et des fois les croyants yani subiront une défaite. D'ailleurs, afin de distinguer celui qui va les suivre, celui qui va obéir au messager d'Allah, pour la vérité et pour ce avec quoi ils sont venus, de les distinguer entre ceux qui les suivent juste, yani pour le prestige sur terre ou pour faire partie des gagnants et des victorieux. Voyez? Donc cela, c'est ce qui s'est passé à Uhud. Mais, encore une fois, la fin, la finalité heureuse, la destination des bienheureux, elle n'appartient qu'aux croyants. Aïnaam. Comme a dit le cheikh Al-Usaymi, rahimahullah, جعل الله ذلك امتحانا للمؤمنين في صدق إيمانهم فأدالهم الله على الكفار مرة في بدر ثم أدال الكفار عليه مرة في أحد كما قال جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب فذكره كما ذكر ذلك أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كلام ماتع له تحسن قراءته في بيان الحكمة مما يجريه الله عز وجل من البلاء على أوليائه وخلص أصفيائه من الخلق. يجي الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette bataille, la bataille de Uhud, une épreuve et un test pour les croyants. Voyez, afin de tester la véracité de leur foi. Après qu'Allah Jalla wa Ala leur a donné la victoire sur les kuffars, sur les mécréants, durant la bataille de Badr. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il a fait Allah? Il a donné la victoire aux mécréants durant la bataille de Uhud. Comme il dit lui-même, Allah Tabarak wa Ta'ala, dans le sens rapproché du verset, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon. Comme l'a mentionné ici Abu Abdullah ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Zad al-Ma'ad, dans yani, une parole merveilleuse, qu'il est bon à chacun de lire au sujet de la sagesse d'Allah tabarak wa ta'ala dans ce qu'il a fait vivre comme épreuve, comme calamité aux musulmans et notamment aux alliés d'Allah tabarak wa ta'ala et à ses serviteurs les plus sincères, les plus fidèles parmi les créatures. Tayyib? Na'am. Thumma qala an-nazim rahimahullah wa hamra al-asad. Wa hadhihi kanat ba'da ghazwati Uhud mubasharatan. Wal muslimuna fi musabihim wa fi jarahihim. حيث ندب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإن أباه كان قد استخلفه على أهله وبناته في المدينة فقتل أبوه يوم أحد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذنه فنهض المسلمون كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد وهي مكان يبعد عن المدينة نحو 20 كيلومترا من ناحية الجنوب. طيب. وفي ذلك نزل قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم. Puis a parlé ici de l'expédition de qu'on appelle Hamra al-Asad. Donc cette expédition là, cette ghazwa Hamra al-Asad, elle s'est déroulée juste après Uhud, directement après la bataille de Uhud. D'accord? Donc ça veut dire que les musulmans étaient encore blessés et étaient encore les plaies, les cicatrices n'étaient pas encore soignées ou guéries. Lorsque donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a inciter les musulmans à se lever et à aller à la poursuite de l'ennemi afin de les intimider. Et il a donc ordonné que seuls ceux qui ont participé à Uhud de sortir avec lui à Hamra el-Assad. Et donc, ceux qui n'étaient pas sortis à Uhud ne sont pas sortis vers Hamra el-Assad, si ce n'est Jabir ibn Abdullah. Le seul qui est sorti et qui n'avait pas participé à la bataille de Uhud, d'accord, à la bataille de Uhud, eh bien, c'est le compagnon Abdullah, Afwan Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce que son père lui avait demandé de rester à Médine, hein, afin de rester auprès de sa famille et de ses filles. Donc, il n'est pas allé à la bataille de Uhud. Mais son père, le père de Jabir ibn Abdullah, s'est fait tuer justement à Uhud. Et donc, Jabir, il a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de sortir cette fois avec l'expédition de Hamra al-Assad. Et le prophète, il lui a donné la permission. Et donc, les musulmans ont fait ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a ordonné. Ils sont sortis malgré les blessures encore et les cicatrices qu'ils avaient, jusqu'à ce qu'ils aient donc atteint cet endroit qu'on appelle Hamra al-Assad, qui est un endroit qui se trouve à peu près à 20 km au sud de Médine. À 20 km au sud de Médine. Et Allah tabarak wa ta'ala a même descendu un verset au sujet de cette expédition de la sourate Ali Imran, dans le verset 172, dans lequel Allah tabarak wa ta'ala, il dit: ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Aïna. Fa إن المشركين لما أصابوا من المسلمين ما أصابوا طمعوا في استئصال شأفتهم والقضاء عليهم فأرادوا الرجوع إلى المدينة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بادرهم تهويلا لهم وتشريدا بينهم وبمن ورائهم حتى بلغ حمراء الأسد. فلما سمع أبو سفيان بمخرجه رجع ومن معه ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قتالا وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جلدهم وقوتهم فانقطع طمع المشركين منهم. يجي الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى donc les polythéistes lorsque ils ont obtenu cette victoire durant la bataille de Uhud et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait aux musulmans, eh bien, ils ont eu le désir de les achever. Yani, d'anéantir complètement et d'éradiquer complètement les musulmans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu revenir à Médine. Ils se sont dit, on va aller à Médine, on va les exterminer. Et on va les éradiquer. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépêché de sortir à leur rencontre, afin de les intimider, de leur montrer que les musulmans n'avaient pas peur, au contraire. Il est sorti afin de diviser les rangs des kuffars. Donc ils sont sortis, les musulmans, comme on a dit, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet endroit qu'on appelle Hamra al-Assad. Et lorsque Abu Sufyan, il a entendu que les musulmans étaient sortis vers eux, eh bien, il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour et ils sont retournés à la Mecque. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, et les musulmans n'ont rencontré aucune armée des kuffars, et donc, il n'y a pas eu de combat à ce moment-là. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu anhum, ils ont montré à ce moment-là leur endurance, leur courage, leur vaillance, ainsi que leur force. Et cette démonstration de force et de courage a coupé net le désir des polythéistes à leur rencontre, qui voulaient donc exterminer et éradiquer les musulmans. Wallahu al-musta'an. ثم قال الناظم رحمه الله: والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد الصبت الحسن. والخمر حرمت أي في السنة الثالثة من الهجرة في المشهور عند كثير من أهل العلم، وقيل إنها حرمت في السنة الرابعة عقب غزوة بني النضير. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, والخمر حرمت. Et l'alcool, ou le vin, fut interdit. Et donc, on comprend par là que le vin ou la boisson alcoolisée devint interdite durant donc la troisième année de l'Égir. Et cela est l'avis le plus connu chez les gens de science. Certains disent également qu'il a été interdit durant la quatrième année, juste après la bataille de Bani al-Nadir, ou l'expédition de Bani al-Nadir. طيب. يقينا أي وتحريمها أمر متيقن لا شك فيه ولا ريب. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Donc il dit l'auteur, يقينا, l'alcool ou le vin a été interdit, يقينا, c'est-à-dire avec certitude, sans aucun doute. Sans aucun doute, pas au niveau de la date de l'année, car on a vu qu'il y avait une divergence quand même, mais sans aucun doute sur le côté interdit de l'alcool à ce moment-là, à partir de ce moment-là, d'accord? C'est une chose qui ne comporte bien sûr aucune hésitation et aucun doute. Et en cela, Allah tabarak wa ta'ala a descendu sa parole dans la sourate Al-Ma'ida, verset 90, dans lequel, dans le sens rapproché, il dit: ô vous qui avez cru, certes, le vin ainsi que les jeux de Paris, hein, wal-ansab, les idoles, wal-azlam, les flèches, hein, les flèches qu'ils utilisaient yani pour prendre des décisions, etc., rejusun, ne sont que des souillures parmi les actes du diable. Éloignez-vous-en afin que vous réussissiez. Taïeb. فقال الناظم فاسمعان أي سماع قبول وإذعان. Donc à la fin, la moitié de ce verset ou de ce vers, il dit l'auteur فاسمعان, يعني écoute, d'une écoute d'acceptation et d'une écoute de soumission. D'accord? وفيها أي السنة الثالثة ولد سبط أي سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. Puis dit: et durant cette année, c'est-à-dire durant la troisième année de l'Égir, naquit السبط, c'est-à-dire le sept du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc السبط, c'est un terme qui veut dire le petit-fils, الحفيد. طيب. Et comment il s'appelait? Il s'appelait Al-Hassan, le fils d'Ali, le fils d'Abi Talib, radiyallahu anhuma. Wa qala ibn Hajar fi kitabihi Al-Isaba, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abi al-Muttalib ibn Hashim ibn Abi Manaf al-Hashimi, sibt Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanatuh. Emir al-Mu'minin Abu Muhammad wulida fi nisf shahr Ramadana sanata 3 min al-Hijra. قاله ابن سعد وابن البر في وغير واحد. طيب نعم. وقيل في شعبان منها، وقيل سنة أربع، وقيل سنة خمس، والأول أثبت. puis dit donc ابن حجر dans son livre الإصابة: الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي. D'accord? Donc là, il nous a donné, Ibn Hajar, la généalogie hein, de Al-Hassan, radiallahu anhu. Donc c'est le sept, c'est-à-dire le petit-fils du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et Rayhanatuhu, yani Rayhana, c'est une plante aromatique. D'accord? Donc c'est un des surnoms qu'a donné le prophète lui-même à son petit-fils. Taïeb. Et c'est aussi donc le chef des croyants. Sa kunya, c'est Abu Muhammad. Al-Hassan Abu Muhammad. Il est né donc à la moitié du mois de Ramadan. À la moitié du mois de Ramadan. L'année 3 de l'Hégire. Comme l'a dit Ibn Sa'd, ainsi que Ibn al-Barr et autres que eux. Taïeb. Ibn العفو ابن البرقي ابن البرقي d'accord et autres que eux. Il est dit également qu'il est né durant le mois de Sha'ban, le mois de Sha'ban de la troisième année. Certains disent la quatrième année, d'autres disent la cinquième année. Mais l'avis le plus fort est qu'il est né donc durant la troisième année de l'Hégire. Car cela est plus fort et plus confirmé par les textes. Wallahu a'lam. Taïeb, idan as-sibtu fi lisan al-arab wasfun libni ibn wa ibn ibnah. Fal-hasid min ayy al-jihatayn kan ibnan lil-ibn ou ibnan lil-ibnah yusamma sibtan. D'accord? Donc dans la langue arabe, c'est ça as-sibt. As-sibtu, c'est quoi? C'est ce qui va servir à décrire le fils du fils, donc le fils de ton fils, ton petit-fils, quoi, ou le fils de ta fille, peu importe, d'accord? Donc le hafid, que ce soit du côté de ton fils ou du côté de ta fille, d'accord? Que ce soit le fils, donc de ton fils ou le fils de ta fille, peu importe, on l'appelle sept. Dans le arabe, on l'appelle sept, sin, be, ta, septon. طيب الحمد لله إذا ذكرنا اليوم كم أربعة حوادث وهي غزوة أحد ثم غزوة حمراء الأسد ثم تحريم الخمر ثم مولد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما لدينا كم لدينا ثمانية حواديث في سنة الثالثة من الهجرة. Donc on a évoqué aujourd'hui quatre événements de la troisième année. La bataille de Uhud, puis l'expédition de Hamra al-Assad, puis l'interdiction du vin, puis la naissance de Hassan, le fils d'Ali, le fils d'Abi Talib, radiyallahu anhum. Donc ça fait en tout huit événements évoqué de la troisième année de l'Hégire. On les rappelle, l'expédition de Ghatafan, puis le mariage de Uthman avec Umm Kulthum, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Hafsa, puis le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Zaynab, puis la bataille de Uhud, puis l'expédition de Hamr al-Assad, puis l'interdiction du vin, et enfin la naissance de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Naktafi bihada insha'Allah ta'ala. Et on continuera donc dimanche prochain en évoquant bi'idhnillahi azza wa jalla les événements de la quatrième année insha'Allah ta'ala. Wa l'ilmu indallah akhir da'wana. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته